c'est de la grosse job. Mais t'as quand même besoin d'un bon sujet de conversation sur ta terrasse pour pas avoir l'air trop bête devant ta date Tinder. Bonne nouvelle! Guillaume Bédard t'explique les sujets chauds de la semaine tous les samedis de l'été à partir de 17h. C'est tout ce que t'as besoin de savoir avant de sortir. Du lundi au vendredi, 16h à 17h30, on se retrouve sur les ondes de Schiste pour parler d'art et de culture. Avec des entrevues exclusives, des chroniques originales et des reportages sur le terrain, je m'engage à vous partager le meilleur de la culture émergente québécoise. Chérie, j'arrive tous les jours de la semaine, de 16h à 17h30, sur les ondes de Schiste 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
Frappé solidement par White du côté gauche. Oui. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
1, 2, 3.
Et bienvenue à votre émission d'actualité internationale chez le voisin à Schiste 94.3. C'est un grand retour après une semaine d'absence. Puis une semaine d'absence, fallait le faire. Il s'en est passé des choses à la Parrain, Godfather 1 et 2 combinés ensemble. Je prépare d'ailleurs, comme j'ai dit à Sébastien, parce qu'il sentait un peu mal de ne pas avoir parlé de... Ben, si vous n'avez pas compris, c'est l'assassinat du président Jovenel Moïse en Haïti. Puis depuis ce moment-là, je veux dire, la saga continue, ça n'arrête pas. Il y a eu quoi? Les enquêteurs colombiens, les enquêteurs américains qui sont allés sur place. Sa femme qui était partie pendant un petit bout, qui est revenue maintenant pour l'enterrement de Jovenel Moïse. L'image qui était assez marquante là, de sa femme, Martine, je pense, ça se peut-tu?
Je pense que c'est Martine. C'est un beau nom, Martine.
Très, très beau. Je veux dire, ça donne cette sagesse-là à cette femme qui avait l'air, bon, je veux dire, forte malgré tout. Hein. Je ne sais pas si tu as vu l'image de elle qui était résolument, qui s'avançait à sa sortie de l'avion, si je ne me trompe pas, avec un gilet pare-balles. Je veux dire, évidemment qu'ils vont la protéger avec ses gardes du corps derrière. Il y a un garde du corps, d'ailleurs, de Jovenel Moïse qui est sous enquête. C'est le chef de sa sécurité, si je ne me trompe pas, là, quand même un haut placé. Fait que ça a de quoi de très... l'ampleur de ce complot-là, presque à la limite, on peut appeler ça enfin un complot derrière lequel on peut se ranger puis suivre qu'est-ce qui s'est passé. Ben, j'ai hâte de voir comment ça va se conclure. Là, il y a le premier ministre, je pense, du pays qui a changé. Il faudrait que je retrouve les noms, là, mais ouais, c'est Ariel Henry, qui est le nouveau premier ministre,
qui va être le
qui a pris la
ministre.
Place de Claude quelque chose. Je veux dire, ça se bouscule à la porte. Je veux dire, les choses bougent rapidement en Haïti. Surtout que, tu sais, faut se rappeler là-bas, Jovenel Moïse était, bon, pas contesté, mais on voulait vraiment qu'il laisse sa place. C'est-à-dire que lui, il était resté là un peu plus longtemps que théoriquement son mandat sur papier arrêtait, mais lui avait donc dit qu'il pouvait continuer le mandat parce qu'il est rentré en poste comme un an plus tard qu'il était censé rentrer en poste, donc lui il a étiré d'un an. Est-ce que c'est légitime rendu là? Bon, beaucoup de gens, bon, légalement voulaient pas de créer de précédent, je présume, puis c'est tout à fait légitime de lui demander de... En fait, de faire des élections tout de suite, puisque légalement, théoriquement, sur papier, Jovenel Moïse, son mandat terminait... Ça fait un petit bout.
Ça fait à peu près un an. Puis il n'y avait plus de parlement depuis un bout. Je veux dire, tu sais, ça allait. Bon, évidemment, on reconnaît Haïti pour un pays qui était assez politiquement instable. Jovenel Moïse gouvernait beaucoup par décret. Puis tu sais, c'est. Évidemment, j'imagine que tout le monde en a quand même beaucoup entendu parler. C'est juste que c'était très hollywoodien un petit peu. Là. On parle d'un président dans son lit qui se fait cribler de balles par un commando en pleine nuit. Fait que là, il y a beaucoup de questions qui arrivent de ça. Le lendemain, Claude Joseph, si je ne me trompe pas, qui était le premier ministre...
Ah voilà, c'est lui que Ariel Henry a remplacé. En
qui
fait.
Était le premier ministre que Jovenel Moïse avait, entre guillemets, renvoyé une semaine d'avant. Presque tout de suite après l'assassinat, lui prend la parole et se déclare comme président par intérim. Ben,
il a même pas pris. C'est ça, au moins, tu sais, je veux dire, ça apparaissait pas. Si c'était lui qui a, je veux dire, on va se le dire, là, si c'est lui qui a commandité l'attentat, non seulement c'était un move de péteux parce qu'il est déjà parti, hein, ça lui aura servi à absolument rien. Deuxièmement, ça n'a pas marché. Il y a beaucoup de sources qui disent que, ben, en fait, après l'enquête, ou en tout cas, on a capturé déjà plusieurs mercenaires.
Capturé beaucoup de mercenaires.
Donc, qui ont pris part à cet attentat-là. Je ne sais pas si on peut qualifier ça d'attentat à la limite. Là. Bref, utilisez le terme que vous voulez, mais cet assassinat-là, commandité, je ne sais même plus, je m'en allais où avec ça, mais bref, c'était pas censé se passer comme ça. Hein. Il était censé être capturé, il t'a dit criblé de balles, mais à la base, beaucoup de ces gens-là qui ont été interrogés par la police haïtienne, par les enquêteurs haïtiens, ben on dit qu'à la base, Jovenel Moïse devait vivre. Il était parti là pour aller le capturer, donc peut-être demande de rançon. Est-ce que c'était justement un move politique pour dire « Regardez, on a votre président, on peut faire ce qu'on veut avec. » Mais là, clairement, ça s'est pas passé comme ça. Il était censé prendre la fuite, en plus, ces mercenaires-là, si je comprends bien, puis peut-être à cause que ça s'est mal passé, ils n'ont pas eu cette opportunité-là. Tu sais, qui sait, est-ce que quand ils ont appris que Jovenel Moïse était mort, ils ont dit « Moi, je ramène pas les mercenaires dans mon avion. » Tu sais, ça s'est mal passé, fait qu'ils sont tout de suite partis. Je veux dire, il y a encore plein d'affaires à résoudre là-dessus. Là, c'est sombre.
Il y a vraiment, effectivement, beaucoup d'angles morts à cette histoire-là. Puis là, à savoir, tu sais, qui dit la vérité là-dedans, dans tout ça. Tu sais, je veux dire, moi, j'étais là « OK, il est supposé censé être capturé, mais tu sais, il finit criblé de balles. » Je veux dire, il y a comme une grosse différence entre les deux. Je pense pas que Jovenel Moïse, c'est qu'il a sorti là, un AK-47 dans toute son oreille, puis il a commencé à tirer, puis là, finalement, on est venu escarmouche, puis finalement, il est mort. T'sais.
L'accident est dur à trouver là-dedans. C'est ça qui est un peu comme perturbant, c'est-à-dire comment tu peux passer de capturer un homme sans défense qui, clairement, t'avais le contrôle de la situation. Là, tu rentres, c'était quoi, une armée de 30, là, à la limite, là, c'était une petite légion. Il rentre, il avait le contrôle, il était armé jusqu'aux dents. Puis Jovenel Moïse finit mort, donc alors que sa femme a survécu, tu sais, je veux dire...
Toute une histoire.
C'est assez sombre, mais je pense qu'on va y revenir. Comme j'ai dit, moi, de toute façon, je prépare des articles, donc je vais publier à partir de vendredi sur la page de Chez le voisin. Vous pourrez aller voir ça, ça va être un bon complément. On va vous partager ça, évidemment. Puis à chaque semaine, à partir de là, il va en avoir 3 en tout. Je vais essayer de faire un petit portrait un peu plus personnel en parlant des gens qui s'y connaissent, qui ont vécu là-bas, des gens qui ont fait du militantisme, des travaux communautaires aussi. Donc, voir un peu le portrait d'Haïti à travers les yeux des gens qui connaissent un peu mieux le pays. Donc, ça pourrait être intéressant. Ça va donner une autre perspective qu'on n'a pas dans les journaux. Tu sais, je veux dire, on parle énormément de politique, d'instabilité et tout. Fait que là, ça va être bien de voir qu'est-ce que les gens qui vivent là-bas, qui ont des origines là-bas, qui ont de la famille là-bas, pensent de la situation. Puis, comment ils s'en sortent avec ça. Ouais. Fait que je pense qu'avec ça, on peut clore le sujet. Évidemment qu'on va vous revenir s'il y a des développements, parce que développement, il va y avoir, c'est certain. Déjà, avec le nouveau premier ministre, c'est sûr qu'il va y avoir des nouvelles élections. Donc, à voir. On vous tient au courant là-dessus. Sinon, je ne sais pas si tu voulais... Commencer de ton côté, tu avais l'air assez blindé.
J'ai un certain nombre de sujets. Je vais en commencer par un que j'avais pas particulièrement l'intention de parler, mais c'est que hier, la bourse a énormément chuté. Puis c'est à cause d'une conjoncture de tellement d'éléments que je pense que c'est assez pertinent d'en parler. Hier, il y a les 4 principaux indices nord-américains qui ont jeté. Les 4 principaux indices, on a évidemment le TSX, la bourse de Toronto. Puis chez nos voisins du Sud, on a le Nasdaq qui est à coloration technologique, comme on dit, fait qu'on retrouve les gros joueurs comme Zoom. On a le Dow Jones, puis on a le SP500. Le SP500, le nom le dit un petit peu, c'est un rassemblement des 500 plus grosses capitalisations boursières, donc les 500 plus grosses entreprises. On retrouve assurément là-dedans des Google et autres. Puis les différents facteurs qui ont fait que la bourse a chuté, bien, premièrement, on a les chiffres de l'inflation du mois de juin qui sont sortis la semaine passée puis qui étaient supérieurs aux attentes des analystes. Ça, ce que ça fait, bien évidemment, ça fait peur au monde, l'inflation. Surtout quand elle est supérieure à ce qu'on s'attend, la Fed, qui est l'organe qui régit un petit peu avec à sa tête Jerome Powell, lui dit que, garde, on n'a pas besoin de se stresser avec ça présentement parce qu'il dit que c'est temporaire, donc tributaire à la réouverture de l'économie. Vous comprenez bien qu'il y a eu énormément d'entreprises qui étaient fermées, de secteurs qui étaient fermés. Fait que là, avec la réouverture de ça, il y a beaucoup plus de demandes pour certains matériaux, certains domaines, certaines nourritures et autres. Fait que ça pousse les prix à la hausse. Fait que c'est ça que Jerome Powell dit, mais ça reste que ça fait peur, ça fait beaucoup peur au marché, l'inflation. Après, il y a le variant Delta. Le variant Delta, on voit de plus en plus de cas, on voit dans beaucoup de pays, et je vais y revenir, mais on voit dans beaucoup de pays une vaccination qui stagne, on voit des pays qui se reconfinent. Donc, évidemment, mais ça fait peur. Ça fait peur au monde financier parce qu'ils escriment s'il y a d'autres confinements, si ça remet l'économie mondiale en hibernation, mais évidemment, la bourse va encore chuter. Puis après ça, ben ça, j'avais parlé de ça il y a environ 2 semaines. J'en avais parlé, l'imbroglio qui avait entre 2 pays importants, en 2 gros joueurs de l'OPEP par rapport au prix du pétrole. Je vais passer brièvement là-dessus, mais si vous voulez re-entendre mon explication, vous pouvez aller retourner à la dernière épisode qu'on a fait. C'est que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, donc des membres influents de l'OPEP, ne s'entendaient pas par rapport à la production de pétrole. Parce que vous comprenez bien que dans un contexte principal de pandémie, ils se rencontraient à tous les mois pour décider qu'est-ce qu'on fait. Quand toutes les économies sont fermées, quand les avions ne volent pas, quand les voitures ne roulent pas, bien évidemment, il y a une moins grosse demande. Donc, on ne peut pas fournir autant ou offrir autant de pétrole qu'en temps normal. Donc, il y avait énormément réduit. Puis là, présentement, ils sont en train de tranquillement remettre du pétrole sur les marchés pour regarder avec les réserves des pays pour savoir que, hey, il faut qu'on en ait assez pour fournir les économies. Là, il y avait une grosse mésentente. Puis finalement, Ils se sont entendus pour mettre plus de pétrole sur le marché. Fait qu'évidemment, s'ils mettent plus de pétrole sur le marché, ça fait, si vous connaissez un petit peu vos courbes d'offres et de demandes, mais ça fait baisser le prix des pétroles. Donc, la conjoncture de ces différents éléments-là, l'inflation, le variant Delta et l'énergie, donc le pétrole qui baisse, a fait que la bourse a énormément chuté hier. Aujourd'hui, ça reprend un petit peu. Puis je vais en venir à ce qui se passe, à ma nouvelle, par rapport à la vaccination, par rapport au variant Delta. Pour la première fois, hier, le Canada a dépassé les États-Unis en termes de pourcentage de vaccination, malgré la campagne canadienne qui avait starté très lentement.
Est-ce qu'on pourrait célébrer quelques secondes notre grande et glorieuse campagne de vaccination canadienne?
Bien, clairement, ben, vas-y. T'sais, j'ai pas mon chapeau sur ma tête, là, mais il est dans mon char.
Ben, c'est dans notre cœur. Je pense qu'il fallait célébrer parce qu'on faisait dur pendant un bout, surtout quand les États-Unis, donc ceux qui ont probablement le moins bien géré la pandémie au début puis pendant un bon moment, nous ont dépassés. J'ai dit comme, ouais, ça fait dur. Je pensais qu'on était mieux partis que les États-Unis. Eux qui étaient, je veux dire, ils avaient plein d'États qui confinaient jamais, aucun port du masque, ainsi de suite. Puis là, tout d'un coup... les États-Unis qui vaccinent plus. Mais voilà, les choses retombent dans l'ordre naturel des choses. Voilà, c'est plus ça que je voulais dire. Mais je suis pas trop surpris avec, je veux dire, la campagne de doute. Tu sais qu'aux États-Unis, s'il y a un gros débat politique là-bas, si t'es républicain, t'es comme anti-vaccin, anti-masque presque. Puis si t'es démocrate, t'es pro-vaccin, pro-masque. Donc, tu sais, avec cette division sociale-là, je suis pas surpris que ça ait stagné. Puis qu'il y a eu beaucoup de gens au début, ça montre que, bon, ceux qui voulaient le vaccin sont allés chercher rapidement, sont allés se faire vacciner rapidement, très bien. Maintenant, ce que ça prouve aux États-Unis, c'est qu'ils n'ont pas été capables de convaincre les gens qui n'étaient pas convaincus. Donc là, ça stagne. Il va y avoir une grosse tranche, c'est 330 millions d'habitants des États-Unis. Imagine, ça fait encore des dizaines, voire centaines de millions de gens qui ne sont pas vaccinés encore là-bas. Donc, c'est normal qu'il y ait une recrudescence des cas, je pense, entre autres. Puis Biden qui s'est un peu fâché aussi là-dessus.
Il y a une méga recrudescence des cas. Depuis la semaine passée, là, ça a augmenté de 70 %. C'est capoté. Puis tu as tout à fait raison quand tu mentionnes que les États-Unis, bon, évidemment, sous Donald Trump, on connaît son bordel mental, fait qu'évidemment que ça n'allait pas bien la vaccination. Mais après ça, ça l'a vraiment inventé vite. vitesse Mach. Là, c'est-à-dire que quand Biden est arrivé, son objectif, c'est de vacciner 100 millions d'Américains dans les 100 premiers jours. Finalement, il a presque atteint le 200 millions d'Américains, mais là, on parle d'une dose. Fait que moi, les chiffres que je viens de vous dire, de 48,8% et 48,5%, c'est par rapport à deux doses de vaccin. Puis au Canada, si on prend en considération uniquement la population en âge de se faire vacciner, mais c'est 55%. Mais tu as tout à fait raison en disant que moi, je pense que la pandémie va devenir une pandémie des non-vaccinés. Fait que là, on parle qu'il y a des États aux États-Unis, comme tu l'as mentionné, que le Missouri, des États peut-être l'Arkansas, plus dans le sud, qui, effectivement, leur taux de vaccination est genre de 35%. Fait que là, il y a un problème. Les gens qui voulaient se faire vacciner se sont fait vacciner, puis là, on parle quand même d'un moment qu'on parlait hier que les frontières vont réouvrir avec les États-Unis. Fait que je pense effectivement que, à l'instar de beaucoup d'autres pays dans le monde, puis c'est un autre sujet que je vais revenir tantôt par rapport à la France, c'est que là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a atteint, je pense, un peu le quota de gens qui veulent, entre guillemets, là, énorme guillemets, là, volontairement se faire vacciner. Fait que là, on arrive à un fait que, bon, si ces gens-là se font pas vacciner, si c'est un gros pourcentage, à la limite, si c'était un petit pourcentage des gens, tu sais, ça serait plus discutable. Mais là, c'est un gros pourcentage des gens, puis ils continuent à faire circuler le virus. Bien, ça devient comme un peu plus problématique. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Comment qu'on adresse le sujet? Puis là, ben, t'sais, c'est très éthique comme question parce que, à quelque part, moi, je pense que c'est important qu'il y ait, dans une certaine mesure, un choix par rapport à ça. Je veux dire, mais ça reste que c'est un choix qui peut avoir des énormes répercussions sur beaucoup d'aspects sociétals. Fait que là, ben à suivre, je veux dire, t'sais, ce que ça a un peu comme incidence, par contre, c'est que, ben nous, de départ, il a été lent. Mais c'est juste avec une coïncidence que leur économie a quand même réouvert plus rapidement parce que leur départ à Mané ont comme payé une bonne vitesse. Puis quand ils ont payé une bonne vitesse, bien, plus ça vaccine, plus l'économie réouvre. Fait qu'on va suivre le dossier, à suivre, mais ça reste que c'est clairement un problème qu'il va falloir que soit adressé parce que là, comme je mentionne, 70% depuis la semaine dernière.
On va faire un petit croche juste avant que je passe à ma prochaine nouvelle. Là, faut le dire avant aux gens, ceux qui vont pouvoir rentrer là, au Canada, normalement, c'est les gens qui sont vaccinés. Donc ce fameux passeport vaccinal va rentrer en vigueur assez rapidement. Je pense qu'on parle du 30 juillet pour réouverture de la frontière avec les États-Unis, si je ne me trompe pas, pour les gens qui sont vaccinés.
Je pense que c'est mi-août, je dirais.
OK, il faudrait regarder parce que je sais qu'il y a deux dates qui ont été annoncées. Je ne sais pas c'est quoi la différence entre les deux. Il y avait 30 juillet puis 17 août, évidemment. Donc, qu'est-ce qui s'applique à quoi. Mais de ce que j'ai lu, c'est vraiment les gens qui sont vaccinés qui vont pouvoir avoir cet accès-là libre à la frontière canado-américaine. Donc, c'est là que ceux qui se sont fait vacciner vont être contents aux États-Unis. J'ai hâte de voir ces fameuses Karen et compagnie qui vont se tenter quand même à la frontière. Puis tu dis, là, vous avez rouvert. Pourquoi je peux pas passer? Tu t'es pas fait vacciner. Puis ici, on essaie de vacciner. Fait que, tu sais, attends qu'on ait... Tu sais, c'est... Ça a l'air niaiseux, là, mais si on avait comme 90% de la population vaccinée partout, là, le 10%, au pire, on pourrait dire « je m'en fous ». T'sais, c'est dommage pour eux, c'est comme ils font pas leur effort social puis communautaire, mais au pire, c'est 10%, c'est pas trop dommageable, on peut s'en sortir. Là, si c'est genre le quart de la population, le tiers, des fois, ou le deux tiers dans certains États américains, comme tu as dit, qui sont pas vaccinés, là, évidemment que tu peux créer une pandémie. Là, avec 100 millions d'habitants aux États-Unis qui sont pas vaccinés, crée-moi que ça se fait. Là. La contamination peut continuer, les hospitalisations peuvent continuer si tu n'es pas vacciné du tout. Donc, évidemment que ça va être un gros casse-tête à gérer. J'ai hâte de voir les crises puis les beaux vidéos Facebook qui vont sortir ça. De ça. Mais autrement, il va falloir se faire. Le fait que si tu fais un certain effort social de plus, communautaire, tu as, je veux dire, des récompenses à la limite. C'est pas, on te prive pas des droits. T'sais, de voyager, c'est pas quelque chose qui est nécessaire à ta santé ou quoi que ce soit. Puis même si c'est le contraire, si tu étais obligé de voyager, ils peuvent te donner un visa malgré tout. Il y a beaucoup d'athlètes olympiques, on peut en parler rapidement, je vais faire un crush là-dessus, mais tu n'es pas obligé d'être vacciné. Au contraire de la croyance populaire, il y a des athlètes qui vont aller à Tokyo et qui n'ont pas besoin d'être vaccinés parce que c'est un choix personnel. Puis c'est bien correct comme ça. Puis eux, ils ont une sorte de dérogation de leur pays, une dérogation de l'organisation olympique. Fait que si tu as besoin, si c'est dans ton activité professionnelle, si c'est pour une décision personnelle importante, je veux dire de la famille ou quoi que ce soit, que tu dois aller visiter, tu peux toujours. Maintenant, si tu viens visiter le Québec ou le contraire, tu es au Québec puis tu vas visiter un État américain pour bon, ton pur plaisir, puis tu n'es pas vacciné, puis tu es un risque de contamination, ben, tu vas devoir attendre un peu plus, à la limite, qu'il y ait plus de gens de vaccinés, puis que ben, le fait que tu décides de ne pas te faire vacciner, ça soit rendu plus si grave que ça, parce qu'il y a assez de gens qui se sont prémunis contre cette maladie-là. Donc, tu sais, c'est, je veux dire, j'ai hâte de voir les crises que ça va faire, mais j'ai hâte de voir l'explication derrière, parce que tu sais, il n'y a pas de bonne explication à « je veux voyager ». Si tu veux voyager, arrange-toi pour ne pas être un risque pour les autres. C'est tout si simple que ça. Sinon, ben, attends que la société soit immunisée contre ce virus-là, puis là, après, tu pourras aller faire ce que tu veux. Ouais. Ça ne dérange pas du tout, puis ça ne va pas déranger les gouvernements rendus là, j'en suis convaincu.
Puis je pense que quelque chose qui nous aide un petit peu au Canada, c'est que, contrairement un peu comme tu as mentionné tantôt, c'est qu'on ne l'a pas politisé. C'est-à-dire qu'au Canada,
ben,
que tu sois...
Il faut mettre des guillemets là-dessus, moins
ouais,
politisé.
Beaucoup moins. Mais tu sais, versus que tu sois plus NPD, que tu sois plus Parti conservateur, que tu sois plus Parti libéral, c'est pas une affiliation politique par rapport à si tu te fais vacciner ou pas. Tandis qu'aux États-Unis, tu sais, c'en est pas une absolue. Mais tu sais, évidemment, je suis persuadé que s'il y avait des sondages, plus tu es conservateur, puis plus tu es de droite, ben, tu sais, ou plus tu es républicain, donc moins qu'il y a des chances que tu aies été vacciné. Puis tu sais, les questions éthiques peuvent devenir difficiles quand la vaccination par rapport à ta religion, la vaccination par rapport à si tu as si tu peux pas te faire médicalement vacciner, parce qu'il y en a des gens qui peuvent pas se faire médicalement vacciner. Fait que puis moi je me demande un petit peu aussi par rapport au voyage, tu sais, on s'entend que les pays vont accepter les vaccins qui ont été approuvés dans leur pays, qui ont été homologués dans leur pays. Fait que là, conséquemment, si moi, je prends vraiment un exemple random, là, si moi, je veux aller au Venezuela, disons, puis qu'au Venezuela, ben, eux autres, ils vaccinent avec le Sputnik V ou ils vaccinent avec le Sinovac, donc le vaccin respectivement russe puis le vaccin chinois. Puis moi, j'ai été vacciné avec du Pfizer. Est-ce qu'ils vont l'accepter si eux ne l'inoculent pas dans leur pays? Fait que là, ça peut devenir un peu compliqué, embriquer tout ça. T'sais.
Même en Occident, je veux dire, l'Europe qui refuse maintenant les vacciner à l'AstraZeneca, puis moi qui avais dit un peu naïvement, je sais pas si tu te rappelles, avant que je sois vacciné pour la première fois, je me suis dit, si c'est AstraZeneca, ça sera AstraZeneca, pas de problème. Je veux dire, si c'est la dose qu'ils vont offrir, ça va être la dose qu'ils vont offrir. Je vais le prendre peu importe. Mais là, tu sais, moi qui veux s'en aller en Europe, tout d'un coup, ça devient un problème parce que si j'avais eu, puis là maintenant c'est Pfizer, je le sais, fait que je suis safe de ce côté-là. Mais imagine l'optique où finalement je reçois AstraZeneca, puis je reçois ma deuxième dose plus tard. Je m'en vais en Europe, c'est pas accepté là-bas. Là, le vaccin est finalement pas reconnu comme étant un vaccin efficace pour avoir ton passeport vaccinal. Fait que là, ça devient tout un genre d'imbroglio, comme tu dis souvent. Puis c'est un genre de casse-tête, parce qu'au Canada, tu sais, je veux dire, allié de l'Union européenne, ils ont plusieurs accords diplomatiques, accords transfrontaliers, économiques, politiques, blablabla. Mais ça créerait un précédent. Puis tu sais, je veux dire, pourquoi tu fermerais les frontières à des citoyens canadiens qui sont vaccinés, qui sont reconnus vaccinés dans leur pays, puis tout d'un coup, ils arrivent, par exemple, en Belgique, comme dans mon cas, et t'es plus vacciné proprement. Ça devient vraiment un casse-tête bureaucratique important. Il va falloir que les pays s'entendent bientôt. Absolument. Sur des mesures contraignantes, oui, pour les vaccinés et non vaccinés, mais aussi qui sont un peu plus, je veux dire... consensuel, j'ai le goût de dire, pour pas qu'il y ait de... Tu sais, je veux dire, tu passes aux États-Unis, c'est une nouvelle loi. Tu passes au Mexique, nouvelle mesure. Tu passes au Paraguay, nouvelle mesure, ainsi de suite.
Il va falloir qu'il y ait un encadrement quelconque puis qu'il y ait des régulations par rapport à ça. Puis, tu sais, les gens commencent à parler un petit peu de voyage. Moi, pour la première fois aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit, « Hey, il m'a dit, je me suis acheté des billets pour aller en Colombie. » Puis je pense que maintenant, je veux dire, du moins dans le futur rapproché, ben tu sais, moi-même, on a commencé à me le demander, « Hey, as-tu l'intention de faire un voyage bientôt, prendre des vacances cette année? Où est-ce que tu aimerais aller? » Mais évidemment, la réponse à cette question-là devient beaucoup genre, ben tu sais, je regarde un peu par rapport à la COVID. Fait que, la COVID devient vraiment un dénominateur par rapport à les destinations de voyage. C'est-à-dire que moi, tu sais, je me dis, OK, bon, je pars en voyage, j'achète des billets maintenant, je vais pas juste aller sur Google Flights.
Est-ce que
regarder.
C'était pas déjà un peu ça, tu sais, dans le sens où s'il y avait eu une épidémie, tu sais, là, on parle de pandémie mondiale, fait que ça affecte tout le monde, mais tu sais, dans le temps, République démocratique du Congo, plusieurs pays autour, il y avait une fameuse épidémie d'Ebola. Je te confirme que, tu sais, c'est tous des pays que, moi, en fait, c'est évidemment tous des pays que j'aimerais visiter. Tous les pays, j'aimerais ça les visiter. Mais pendant cette épidémie-là, ben, ça aurait été un problème. T'sais, j'aurais pas fait, je vais aller là. C'est juste que c'est rendu une réalité qui est partout dans le monde, qui affecte autant les pays occidentaux qu'orientaux, sud, nord, est-ouest, là, peu importe. Donc, tu sais, c'est pas nouveau comme réalité. C'est juste que c'est tellement suffocant que c'est vraiment... Tu peux plus prendre un choix sans regarder ça, sans devenir un peu paranoïaque puis dire, oh, est-ce que s'il y a deux cas de COVID variant Delta, est-ce qu'eux, ils sont partis pour une nouvelle vague et ainsi de suite? Donc, c'est vraiment, sans être nouveau, c'est une réalité qu'on mettait un peu bon, en arrière-plan, puis je dirais au bas de la liste. Maintenant, c'est rendu au haut de la liste. C'est ça qui est vraiment la grosse différence.
Ben justement, d'où la grosse différence dans la définition d'une pandémie puis d'une épidémie. Je veux dire, une pandémie, c'est que c'est uniformisé au niveau des continents. Et puis tu vois, moi, je regardais cette semaine France 24, puis ils mentionnaient qu'il y avait une résurgence des cas au Rwanda puis en Tunisie. À la limite, c'est deux pays qui m'intéressent. T'es allé. Mais là, par défaut, maintenant, je suis bon, mais tu sais, je vais pas là, tu sais, évidemment. Fait que là, mais tu sais, maintenant, c'est que c'est tellement. Avant, tu sais, c'était assez concis à un petit secteur du monde que tu pouvais facilement dire, ah, ben, tu sais, le monde est grand, je peux aller un peu n'importe où. Mais là, c'est uniformisé sur la planète Terre. Fait qu'évidemment, que c'est rendu pratiquement le premier facteur que tu regardes pour éliminer des endroits. Fait que clairement, que ça va un peu redessiner, du moins pour un certain temps, puis ça va clairement affecter des économies à cause de la COVID.
J'allais dire, à la limite, il y a peut-être l'Antarctique, mais je me demande s'il n'y avait pas eu une genre d'éclosion dans une des bases de l'Antarctique. Là, c'est qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui est à l'abri de la COVID. Je veux dire, même les scientifiques pris à moins 40 degrés Celsius dans le pôle sud, ils ont des éclosions là-bas. Je veux dire, même là, il faut que tu checkes.
Faut que tu sois chanceux pareil. Tu es en Antarctique, tu es un scientifique, tu étudies les pingouins royaux.
La seule affaire que tu avais plus, c'est que tu n'avais pas de COVID là-bas. Tu pouvais célébrer, faire la fête quand tu veux. Tu sais, les régulations, tu disais, bon, enfin, être en Antarctique, ça sent plus.
On peut se rapprocher en Antarctique.
Là, clac, tu as deux scientifiques qui se frenchent un peu trop, puis ça donne qu'un des scientifiques qui venait des États-Unis, puis qui ne s'était pas fait vacciner, puis qui avait préalablement frenché deux, trois cousins en Arkansas, et voilà, c'est parti. Désolé pour tous les Arkansansais, je sais que ça ne se passe pas comme ça là-bas. Ici, on aurait dit Saguenay, mais qu'est-ce que vous voulez? J'essaie de faire des jokes à l'international. Parlant de déclosion de COVID, je voudrais faire un petit croche, parler d'une blague aussi. Je pense pas que la prétendue fautive ici a frenché quelques cousins que ce soit, mais elle a quand même écopé d'une grave punition, c'est-à-dire de 1 000 $ d'amende, si je ne me trompe pas, 1 000 $ australiens, donc ça revient à quelque chose comme 737 $ américains. Au dernier calcul, c'est une certaine Cathy Hopkins, donc une commentatrice britannique de l'extrême droite, donc très connue pour ses commentaires plutôt déplacés sur les immigrants, les gens de confession musulmane, et ainsi de suite. Vous voyez le portrait. Elle aussi, qui était plus ou moins pour tout ce qui est mesures sanitaires en général, parfois remettant en doute la COVID-19 elle-même. Mais là, connu une sorte de rehausse de sa popularité lorsque Donald Trump a commencé à retweeter ses tweets à elle. On parlait de Twitter tantôt, Sébastien. Si t'en veux une qui est populaire, c'est rendu Cathy Hopkins, qui est un phénomène de l'extrême droite britannique. Mais elle était invitée pour un talk show, si c'est comme ça qu'on l'appelle ça encore, à Sydney, en Australie. Donc, elle s'était rendue là-bas. L'Australie qui a encore des règles de quarantaine relativement strictes. Donc, elle était en quarantaine pour un 14 jours. Donc, le classique, l'Australie, ça n'a pas changé là-bas. Surtout qu'il y a une recrudescence des cas dernièrement. Et là, elle a posté sur Instagram des vidéos d'elle qui interagissait, qui faisait exprès de ne pas porter son masque avec les employés de l'hôtel et qui apparemment se vantait non seulement de ne pas porter de masque, mais de ne pas porter de linge lorsqu'elle ouvrait à certains employés qui venaient lui porter, par exemple, sa nourriture et ainsi de suite.
Est-ce que c'est une belle femme?
Je te laisserai juger, mais je donnerai pas ma note ici pour pas insulter personne. J'ai déjà insulté tout l'Arkansas en faisant une joke de cousin. Donc, je vais m'en tenir à Cathy Hopkins qui, ben, disons qu'elle ferait pas Miss Univers.
Tu pourrais dire, mettons, neutre.
Neutre. Mais donc, Cathy Hopkins qui a eu la bonne idée de publier ça sur les réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux, tout le monde voit ça, y compris, bon, la police et les autorités de Sydney. Ensuite, bon, est venu le 737 $ d'amende, et surtout, elle elle s'est faite, d'habitude, on s'en entend souvent, ben, on parle d'extrême droite, eux qui aimeraient bien déporter plusieurs immigrants illégaux, réfugiés, ressortissants musulmans. Ben, Kathy Hopkins a finalement goûté à sa propre médecine. Elle s'est faite dire qu'elle pouvait dorénavant quitter le pays sans revenir. Il y a une déclaration officielle des autorités qui dit « On ne la veut pas ici une seconde de plus. Elle peut retourner chez elle. » Donc, c'était assez drôle de ce côté-là. C'est Karen Andrews, donc une ministre du pays qui s'occupe, je pense, justement, de l'immigration, quelque chose comme ça, qui a annoncé ça. Je veux pas dire que c'est vraiment son poste, là, Karen Andrews, je la connais pas très bien, mais bref, c'est une ministre australienne qui a fait cette annonce-là, qui a dit que, bon, c'était pas le genre de personne qu'on voulait au pays, donc malheureusement, Kathy Hopkins, qui n'ira pas à son talk show à Sydney, Sydney, très belle ville, elle avait l'opportunité de voyager alors que moi, je suis pogné ici, et comme de fait, ben, elle a gâché ça, 14 jours, c'était trop long, ça lui a monté à la tête, puis la nudiste de passage, donc, qui était nu du visage comme du corps, ben, elle s'est fait renvoyer chez elle. Une triste tragédie pour la présentatrice qui aurait pu profiter d'un très beau séjour, d'une très belle exposition sur, je veux dire, la télévision australienne. Ben, écoute, on subit les conséquences de ces actions. Même les plus grands de ce monde ne sont pas à l'abri d'une petite amende de 1 000$. Pour elle, c'est probablement rien. C'est probablement plus la déportation qui fait mal. Son visa qui a été révoqué du moment qu'ils ont vu ça, ça fait que très, très drôle de lire ça. Ben, je dis très drôle. Je veux dire, je devrais plutôt dire je suis neutre pour pas offenser personne encore une fois ici. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai quand même souri un peu. Je vais pas te mentir là-dessus.
Moi, j'ai trois choses à dire là-dessus. Première chose, un, c'est que si elle allait passer à la télévision en Australie, c'était probablement à travers les réseaux de Rupert Murdoch. Vous pouvez faire des petites recherches sur Rupert Murdoch, un homme très influent dans les réseaux, particulièrement en Australie, puis qui était un proche-ish de Donald Trump. Deuxièmement, la ville de Sydney est une très belle ville, effectivement. Si je ne m'abuse, elle est confinée présentement. Du moins, elle l'était il n'y a pas très longtemps, puis je pense que le confinement a été un peu rallongé. Puis la troisième chose que j'ai à dire, et la plus importante, c'est LOL.
Donc, voilà de sages paroles, Sébastien.
Si je poursuis rapidement, moi, avant qu'on prenne une petite pause, je vais aller en France. En fin de semaine, il y a eu des grosses manifestations en France. Des gros chiffres, 114 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur. C'est beaucoup de monde. Ça rappelle quasiment les Gilets jaunes. Mais cette fois-ci, c'était un petit peu moins politisé. C'est-à-dire que c'est plus hétéroclite. C'était un peu toutes les franges de la société qui étaient là, puis étaient essentiellement là contre les mesures en France concernant la vaccination. Parce que la semaine passée, Emmanuel Macron a annoncé certaines nouvelles mesures sur lesquelles je reviens. Fait que c'était pas juste les anti-vaccins. Il y avait des gens qui disaient, regarde, ils disaient, moi, j'ai été vacciné pour le tétanos, pour la polio, mais en ce moment, le vaccin est trop expérimental. Donc, ça allait vraiment d'un spectre à l'autre. Évidemment, on retrouvait tout de même des anti-vaccins. Fait que ce qui s'est passé, c'est que Emmanuel Macron il a annoncé que les travailleurs de la santé avaient jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner. Puis que les gens qui voulaient maintenant pouvoir accéder ou prochainement pouvoir accéder aux restaurants, aux bars, aux hôpitaux, aux centres d'achat, aux trains, aux avions et à toutes autres certaines affaires devaient maintenant se faire vacciner, donc devait présenter une preuve de vaccination. Puis tout est une question de causalité dans la vie, donc c'était la raison des manifestations. Puis là, moi, ça on dirait que ça m'amène à la question de va-t-il avoir des faux certificats qui vont se faire? Il va-t-il avoir des faux passeports vaccinaux? Tu sais, le plus qu'on impose, je veux dire, de plus que potentiellement certains pays vont imposer ça. Puis je pense que c'est avec un code QR. Puis je sais que dans un média que j'avais lu relativement dernièrement, je pense que c'était sur Radio-Canada.
Ben,
je pense
ça,
que c'était par rapport au code QR qu'il disait que c'était quand même. Mais là il parlait pas de falsification. Par contre, il parlait que c'était assez facile être capable d'aller chercher des informations sur cette personne-là. Mais bref, c'est une question que je lance comme ça, puis je ne prétends pas avoir la réponse, mais ça reste que, est-ce qu'il va avoir des faux passeports vaccinaux? Est-ce qu'il va avoir de la contrefaçon? Puis la réponse est assurément, dans une certaine mesure, oui. Donc, à part de ça, ce qu'ils ont fait, Macron, c'est qu'ils ont resserré un peu les frontières à partir de ce dimanche, donc à partir de avant-hier, mais ils ont quand même dit qu'ils allaient laisser les touristes entrer, les gens qui avaient été pleinement vaccinés. Fait que malgré les manifestations, il y a eu un énorme afflux au niveau de la vaccination par rapport à quand les annonces ont été faites. Fait que je pense que ce que ça peut avoir comme incidence, une action comme celle-là du gouvernement Macron, c'est que ça a révolté certaines personnes qui sont fondamentalement contre le fait de se faire indirectement obligé à se faire vacciner. Mais je pense que d'un côté, je veux dire positif, je ne veux pas trop prendre de bord, mais un côté positif, je peux me permettre l'expression, c'est que ça fait tous ceux qui tergiversaient un petit peu, qui étaient un peu incertains, ou bien qui brettaient, puis qui étaient là, oh, je vais me faire vacciner plus tard, puis etc., etc. Mais là, on l'a vu avec la réponse, c'est qu'il y a eu énormément, les lignes ne dérougissaient pas par rapport à la vaccination. Il y a vraiment beaucoup de gens qui à la suite des annonces, se sont fait vacciner ou ont pris rendez-vous pour se faire vacciner. Rappelle que la France a 110 000 morts, que son économie a été ravagée, puis jusqu'à maintenant, il y a 36 millions de personnes qui ont reçu une dose. Fait que leur vaccination a été très lente à commencer, est quand même encore assez lente par rapport au cas, parce que présentement, on voit quand même une résurgence, encore une fois, du variant Delta. On voit des économies qui ont tendance à vouloir un petit peu refermer. Fait que c'est ça qui s'est passé. Avec Macron, il y a eu des gens qui sont allés se faire vacciner, puis il y a des gens qui ont manifesté. À suivre, qu'à voir comment. C'est un peu, à ma connaissance, c'est un peu le premier pays qui déclare de façon aussi tranchée, travail de la santé, vous devez vous faire vacciner, puis les autres, vous n'êtes pas vaccinés, vous ne rentrez pas au restaurant, vous ne rentrez pas là. Je sais qu'Israël l'a fait un petit peu, je sais qu'Israël était dans les premiers à parler du passeport vaccinal. Là.
C'est des petits pays, peut-être, qu'on entend moins parler, mais je veux dire, la France, c'est une puissance économique européenne. C'est une grosse influence. G7, et ainsi de suite. Tu sais, peut-être que tu pourrais dire ça. Je pense que pays du G7, c'est probablement le premier qui est aussi drastique dans ses mesures, là, dans les grosses puissances. Même G20, peut-être, on pourrait dire ça comme ça, surtout que le G20 contre le Brésil et compagnie. Fait que Brésil, c'est certainement pas eux avec Bolsonaro qui vont obliger ça en ce moment. Mais bref, pour ceux qui cherchaient l'article puis qui voudraient plus en lire là, sur ce fameux code QR, ça s'appelle « Facile à décoder, le code QR des vaccinés inquiète des experts en cybersécurité ». C'est un article de Radio-Canada qui est paru voilà, une semaine, donc le 13 juillet.
Je vais faire un mini crochet juste parce que tu as mentionné Bolsonaro. Puis là, c'est pas une nouvelle, mais c'est drôle, honnêtement. Là. C'est que Bolsonaro, il a été hospitalisé dernièrement, c'est pas ça qui est drôle. Il a été hospitalisé à cause de ceux qui s'en souviennent pendant sa campagne électorale, il s'est fait poignarder. Vous allez voir la vidéo, c'est pas dégueu. Là. Il est comme dans la foule, puis là, bang, il y a quelqu'un qui arrive, puis il poignarde. Puis il a été hospitalisé un petit peu par rapport à ça, parce que je me trompe sûrement, mais je pense qu'il avait, exemple, des problèmes intestinaux, puis il devait se faire hospitaliser par rapport à ça. Mais avant son hospitalisation, il y a eu le hockey pendant 10 jours. Puis ça, c'est fucking drôle. Ça a été rapporté par Bloomberg. Puis, tu sais, c'est drôle, tu sais, je veux dire. C'est drôle surtout parce que Bolsonaro, c'est l'exemple parfait d'une incurie gouvernementale qui a pratiquement, tu sais, il est anti-vaccin, il est misogyne, il est homophobe, tu sais, on peut mettre beaucoup...
Il aime parler fort aussi, fait que là, je m'imagine ses gros discours, puis... Il y a le hockey en même temps, ça doit être
assez... Moi, je le porte pas dans mon cœur, Bolsonaro. Il est assurément indirectement responsable de beaucoup de morts de par ses actions pendant la pandémie. Il faisait des gros rassemblements, pas de masque, il refusait des vaccins, blablabla. Bla, bla. Fait qu'il y a eu le hockey pendant 10 jours, tintoué.
Pas pire là-dessus. Écoutez, nous, on y va pour une courte pause publicitaire, une minute environ, puis on revient tout de suite après avec un gros flash info pour tout ce qui nous reste pendant la fin de la journée. On a quand même beaucoup de nouvelles aujourd'hui, ça fait qu'on va passer rapidement là-dessus. Mais restez à l'écoute, on vous revient tout de suite à Chiz 94.3.
La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici? Écoute locale, la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis, 14h, sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local.
Du 21 au 25 juillet, le festif de Baie-Saint-Paul brasse de grosses affaires. Pour l'occasion, l'équipe de Chiz y sera pour réaliser des entrevues, des émissions exclusives, en plus de couvrir les spectacles de Clopelgag, Men I Trust, Marc-Pierre Arthur, Dominique Fils-Aimé, Corridor, Maud Audet, Mon Doux Seigneur, Fleur Laurentienne, Alex Burger, Chose Sauvage, Teki Teki, Valence, Calamine, Arrière-Droite et plusieurs autres. Donc, on se voit à Charlevoix ou quoi?
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
The following program is disturbing. Cash Crowd.
Mardi 20h. Chiz 94.3.
D'écoute!
Et on est de retour. On va y aller très, très, très rapidement chez le voisin pour cette deuxième moitié d'émission. On a tergiversé beaucoup, mais je veux dire, c'est toujours le fun de diverger un peu de nos sujets originaux puis d'avoir une vraie discussion un peu plus personnelle là-dessus. Mais écoute, je voulais revenir sur un gros concours de Zizi, c'est-à-dire, t'en avais parlé plus tôt cette année. Les pays qui achètent de plus en plus d'armes, qui développent des armes, et ainsi de suite. Et là, bien évidemment, qui de mieux placé pour show off son gros engin que la Russie, qui veut impressionner son crush, les États-Unis. C'est plus genre un crush, mais genre malsain. Tu sais, genre, je t'aime pas, mais je veux quand même que tu me désires, puis ainsi de suite, comme ça. Fait évidemment, c'est presque un dick pic que la Russie a envoyé. Ça fait pas si longtemps que ça. Ils ont développé rien de moins qu'un missile à longue portée hypersonique. C'est une nouvelle du 19 juillet. Donc, ça avait été annoncé bien avant, sauf que là, c'était un test officiel de la puissance russe. Ce missile-là s'appelle le Tsirkon, ou Tsirkon Hypersonic Cruise Missile en anglais. Ça a été lancé avec l'approbation, évidemment, de Vladimir Poutine lui-même. Qu'est-ce que vous voulez? Il aime ça, montrer ses nouveaux joujoux. Ça a été lancé, je veux dire, on dirait une affaire de la guerre froide, d'un navire qui s'appelle le Admiral Gorshkov. Rien de plus patriotique, à partir de la mer Blanche. Ça, je la connaissais pas. C'est une mer, apparemment, qui est au nord de la Russie. Donc, probablement, je veux dire, un lieu pour tester des armes inégalées. Je veux dire, il n'y a personne là-bas dans le nord de la Russie. Quoique, eux là-bas sont bons pour avoir, je pense qu'il y a une ville qui est centaines de milliers d'habitants, qui est genre moins 40 degrés à longueur d'année presque. C'est fou. Bref, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quand même du monde là-bas qui ont pu assister à ce lancer de missile.
Est-ce que c'est un missile avec quel but, je dirais? Là, c'est un missile pour faire des frappes à longue distance? C'est un missile pour frapper des... Parce que moi, on dirait que de plus en plus, j'ai un peu peur de quand ils vont sortir, puis je sais que ça a commencé un peu à sortir, mais des missiles pour frapper des satellites.
Ben c'est ça. Je veux dire, l'utilité derrière, c'est toujours plutôt sombre, hein, c'est militaire. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Est-ce que c'est juste, encore une fois, un show-off? Est-ce que ça a vraiment une utilité? Est-ce que c'est juste pour bombarder, tu sais? Mais bref, le test s'est passé sur 350 km, fait qu'une longue distance. Et ça peut atteindre, ils ne sont pas allés à sa puissance maximale, ça peut atteindre quand même 1000 km de distance. Ce missile-là est intraçable normalement, je veux dire hypersonique. C'est très dur à tracer, à voir arriver. Donc, c'est évidemment, je pense que c'est juste un missile classique. C'est juste que cette fois, avec toutes les armes anti-missiles, par exemple, avec Israël, son dôme de fer, je pense qu'il l'appelle.
Dôme de fer.
Imagine la Palestine avait ce missile-là, ça ferait ravage. C'est pour impressionner puis dire, regardez, vos armes ne servent plus à rien. Puis quand on sait que l'Occident a des technologies, tu sais, Israël, grand allié des États-Unis, c'est sûr que les États-Unis ont des armes au moins équivalentes au dôme de fer faites pour détruire les missiles avant qu'ils atteignent leur cible. Un missile hypersonique comme ça, à longue portée, c'est fait justement pour outrepasser ces countermeasures, on dit en anglais contre-mesures. Donc, c'est vraiment juste pour impressionner. C'est un missile classique qui va encore plus vite et intraçable, donc de plus en plus meurtrier. Qu'est-ce que tu veux?
C'est quand même capoté, bon.
Hein? Tu fais aller-retour Montréal-Québec
quatre fois. C'est quand même capoté, le 1000 km. Un missile, je ne sais pas si dans quelle mesure il peut être bien contrôlé, dans quelle mesure il est précis.
Ben, c'est ça que, en fait, les experts se demandent. C'est drôle que tu en parles parce qu'ils disent, évidemment, la Russie a dit... Réussite, tout le monde. Regardez mon missile, c'est beau, il va vite, il va loin.
Frappe chirurgicale.
C'était presque ça. Sauf que les experts sont comme, le missile est intraçable, va tellement vite que c'est dur à contrôler, puis c'est dur à garder, en fait, sous le radar. Donc, comment tu peux être sûr que ça a bien marché, ton test, si c'est aussi dur à tracer que ça, puis c'est quasi incontrôlable? Fait que les experts ont dit, écoute, tant mieux pour vous, mais on a nos réserves là-dessus. Fait que les Russes qui nous montrent leur nouveau Tsirkon lancé de ce Admiral Gorshkov.
Je pense que le principe d'un missile intraçable, ce qui le rend intraçable, je pense, c'est qu'il vole assez bas. Je pense qu'une des caractéristiques des missiles qui sont capables de déjouer des systèmes anti-missiles, je pense que c'est qu'ils font voler assez bas versus d'en faire
bas, mais les avions aussi, puis il y a ça aussi qu'il va falloir voir. Est-ce que la Russie, ça, ils nous montrent ça, puis c'est le dernier qu'ils ont fait. Là, après ça coûte tellement cher à faire qu'ils n'en feront pas. Il y a beaucoup d'avions expérimentaux russes qui ont fait comme en deux exemplaires, puis c'est tellement cher, c'est efficace, mais c'est tellement cher à faire qu'ils n'en feront pas. Ils n'ont pas l'argent pour ça. Est-ce que ça va faire la même affaire? Je sais qu'il y a des avions russes dont tu parles. C'est pas qu'ils volent bas, c'est qu'ils ont une forme
précise qui fait que c'est beaucoup plus difficile à détecter. Fait qu'on est rendu qu'on joue sur le modèle des missiles puis qu'on peut les faire voler aussi haut qu'on veut. Sauf que maintenant, la forme fait que les radars, c'est beaucoup plus difficile à détecter. Fait que des petites subtilités comme ça qui font que ben, déjà, le missile va super vite. Fait que autant tu le détectes, autant 2 secondes après, t'es mort. Fait que ça sert à rien que tu le détectes, là. Mais c'est... Voilà. À quoi ça sert? À show-off, c'est vraiment ça. S'ils vont pouvoir mettre ça sur leur profil Tinder de pays...
On dirait que des avions, j'ai l'impression que c'est très 2020. Faites donc des drones. Ouais, tu sais, maintenant, les drones, on s'entend que la technologie s'est capotée. On l'a vu dans le conflit de l'Azerbaïdjan. C'est mortel, là. C'est fou, là. T'es, un drone n'était même pas... Si il se fait péter, bon, ça coûte cher, fuck. Grosse facture, mais ça reste que t'as personne qui est mort.
Voilà, mais c'est pour ça que le missile est intéressant dans le sens où tu lances, puis après, tu laisses les choses aller. Le missile va exploser, puis toi, t'as plus à t'en faire avec ça. Il est parti chez l'ennemi. Fait que, comme quoi, ben, il n'y a pas de pilote qui a besoin de revenir là-dessus. Pour une nouvelle un peu plus, je veux dire, joviale que la Russie qui monte ses missiles, c'était, ben, vous le savez, ben, déjà, ça va pas partir jovial. Vous allez dire, voyons, t'es bien sadique. Les feux en Colombie-Britannique, il y a encore des dangers là-dessus. Je pense que c'est un peu plus sous contrôle, mais même en Ontario en ce moment, les pluies qui n'ont pas réussi à complètement arrêter l'avancée des feux. Vous pouvez lire la presse Radio-Canada là-dessus, ainsi de suite. Mais article intéressant de Radio-Canada, encore une fois, qui est paru ce 16 juillet, c'est des pompiers du Mexique qui sont venus en renfort en Colombie-Britannique. Puis ça, c'est toujours le fun à voir. T'sais, on pense toujours, ben, on envoie de l'aide aux pays du Sud, on va aider le Mexique, on va aider, t'sais, l'Afrique. Puis c'est souvent un argument du genre, ben là, pourquoi on va les aider, t'sais? Ben, exactement pour ça, ben, nous, on n'en entend pas souvent parler, hein, du Mexique qui vient aider le Canada. Ben, dans des situations comme ça, ben, il y a une sorte de délégation de pompiers, si tu veux. Je dis délégation, ça fait plus diplomatique, là, mais bref, il y a une troupe de pompiers qui a été envoyée en renfort. T'sais, il y avait déjà des pompiers de Val-d'Or, ben, bref, du Québec, qui sont venus aider en Colombie-Britannique. Il y a carrément des pompiers maintenant mexicains qui sont venus aider à contrôler le brasier en ce moment qu'il y a en Colombie-Britannique après les chaleurs extrêmes qu'il y a eu là-bas. Fait que c'est très, très court comme nouvelle, mais ça monte un peu le moral. Puis ce genre de support international-là, c'est de ça qu'on a besoin souvent, qui remonte un peu le moral puis qui nous fait dire « Ah, oh, c'est pour ça qu'on s'aide. » Ben oui, parce que ça va dans deux sens. C'est pas juste nous qui envoie des gens là-bas pour les aider. C'est pas juste nous qui envoie de l'argent, ainsi de suite. Ça, t'sais...
Je sais pas s'ils ont une expertise particulière au Mexique par rapport... Parce que...
Ben, ils éteignent des feux. Déjà, c'est un bon début, je veux dire. Il en manque tellement, je veux dire. C'est immense, les brasiers. C'est des centaines de feux, en plus,
c'est capoté,
qu'il y a là-bas. Fait évidemment, plus t'as de monde, mieux c'est. Puis je présume qu'au Mexique, c'est un peu plus la sécheresse. T'sais, ils ont des déserts là-bas. C'est toujours un peu plus chaud. Est-ce qu'ils ont plus de feu par année? Faudrait regarder ça. Est-ce qu'ils ont une certaine expertise de plus, peut-être aussi? S'ils sont juste déjà plus habitués, ça, je veux dire...
Ma question venait juste un petit peu du fait que je me souviens quand, je veux peut-être quoi, un mois, quand il y a eu l'effondrement de l'immeuble à Surfside, il y avait des secouristes experts qui étaient venus de quelques endroits dans le monde, dont d'Israël et dont du Mexique, à cause qu'il y avait une expertise particulière. Puis là, ben, t'sais, tristement, au Mexique, c'est probablement parce qu'il y a souvent des immeubles qui s'effondrent.
Ben, ils sont plus susceptibles aux tremblements de terre.
Exact, parce qu'ils sont proches de la Californie et vice-versa. Fait que là, c'était juste... Ils ont une expertise particulière où ils ont juste des gros boyaux, là, puis je veux dire, ils ont de l'eau, puis ils lancent
des gros boyaux après les gros missiles, les gros boyaux. Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il était quand même plusieurs dizaines. Fait que si ça aide, ça aide. S'ils n'ont pas d'expertise de plus que c'est des pompiers, c'est déjà assez pour ça. Je veux dire, quand tu fais venir des pompiers du Québec pour aller aider en Colombie-Britannique, clairement, il y a un manque en termes de nombre. Fait que peu importe l'expertise, tant qu'ils savent tenir leur gros boyau, on est correct là-dessus. Je sais pas si tu voulais continuer dans ta lancée Flash Info.
Je vais revenir sur... Il y a eu des grosses manifestations à Cuba. Puis c'est quand même assez rare qu'il y ait des manifestations à Cuba, malgré le régime. Puis je pense que ce que les manifestants scandaient, ben, c'était assez évocateur des revendications de liberté, c'est-à-dire qu'ils scandaient des affaires comme « on a faim, abat la dictature ». Puis c'est des manifestations massives puis super inédites qui ont eu lieu un peu partout à Cuba, dont évidemment à La Havane, mais dans une trentaine d'autres villes. Mais curieusement, quelques jours après, c'était assez revenu au camp, puis il y avait beaucoup de gens qui faisaient comme « ah non, manifestation, non, pas participation ». Puis bon... Les réseaux ont été coupés, les manifestations n'ont pas été relayées par les médias ni par les réseaux sociaux. Puis ça, je pense que c'est à l'instar de toutes les manifestations qui ont eu lieu dans la dernière année et plus en Algérie, au Soudan, puis en passant par Hong Kong. C'est-à-dire que les manifestations sont beaucoup organisées à travers les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux servent beaucoup aussi à démontrer quand il y a des abus de pouvoir, des abus de violence, des abus des forces de l'ordre. Fait que c'est sûr que c'est une force un petit peu pour le gouvernement de pouvoir couper les réseaux sociaux. On se rappelle en Iran, qu'il y a eu des manifestations qu'il y avait eu, je vais dire, dans les 18 derniers mois, il y a eu des grosses manifestations, réseaux sociaux coupés, ils y remettent, puis après on apprend qu'il y a eu plein de morts. T'sais, je sais, puis on n'a pas vraiment d'image réseau social de ça. Enfin bref. C'est Diaz Canel qui est au pouvoir maintenant, puis c'est à lui évidemment que les gens pleurent leur colère. Les autorités cubaines ont été quand même assez efficaces par contre pour réprimer les manifestations. Ils ont envoyé des militants du parti, puis ils ont même mis des policiers en civil à travers les manifestations. Mais ça reste que c'est quand même du jamais vu des grosses manifestations qui ont eu lieu à Cuba. Fait qu'en gros, on peut se demander pourquoi, qu'est-ce qui va pas. Ben en gros, pour le résumer, un trop-plein. Tout. C'est la crise économique depuis 18 mois. Les Cubains, il faut qu'ils fassent la file pour manger, pour acheter du pain, pour acheter de la viande, pour acheter des légumes. Il y a des pénuries dans pratiquement tout, dont des médicaments. Il y a des nécessités qui ne sont pas remplies, mais aussi il y a des coupures de courant. Puis il y a dans certains endroits qu'il y a des coupures de courant qui font beaucoup de mécontents. Certaines villes, 12 heures par jour de coupures de courant. C'est capoté. Imagine, tu essaies de. Tu sais, c'est pas genre, ah, OK, bonjour, nous sommes Hydro-Québec, nous allons avoir une coupure de telle heure à telle heure. C'est paf, ça coupe, merci, bye, tu vas le revoir dans 12 heures. Puis bon, évidemment, tu as la pandémie qui se rajoute à ça, avec des chiffres de contamination record dernièrement. Puis on peut se demander, est-ce que ces manifestations-là vont ébranler le régime? Bien, c'est sûr que c'est un État qui est fort, c'est un État qui est solide. Ça fait 60 ans qu'ils sont là. Puis je pense que le gouvernement fait un travail de pédagogie. Le travail de pédagogie étant qu'ils mettent la faute genre sur les Américains. Ils disent, c'est l'embargo des Américains, c'est pour ça que tel produit ne se rend pas. C'est les sanctions de Donald Trump qui n'ont pas été levées. C'est pour ça que le carburant se rend mal à notre île. Mais je pense aussi que les gens, ils ont peur de la violence, des arrestations. Mais tranquillement, ça reste que je pense que ça peut semer une inception dans la tête des gens de dire « Hey, tu sais, on manifeste, on se fait réprimer, mais peut-être que c'est par là que passe le changement parce que c'est le statu quo depuis tant d'années. » Puis un petit fait intéressant qui a été rapporté par Bloomberg. Il y a plus que 1 million de Cubains par jour qui ont été capables de déjouer la censure d'Internet puis le blackout des médias sociaux en accédant à une technologie qui est backée par le gouvernement américain, puis c'est une technologie de Toronto. Ça s'appelle Psyphon. C'est une technologie qui utilise des serveurs pour déguiser le trafic Internet. Puis ça passe en dessous des radars de la censure, puis ça permet notamment d'accéder à Facebook. Puis la compagnie Psyphon a vu une grosse augmentation de son utilisation avec la technologie, avec les coupures de réseau qui ont eu lieu en Biélorussie puis au Myanmar. Fait que c'est accessible un peu partout dans le monde. Puis super, chouette, j'encourage.
Tu avais l'air presque plus motivé qu'avec les boyaux puis les missiles. Je sais pas, je pense qu'on n'a pas tant que ça de temps. Il te restait-tu beaucoup de nouvelles? Parce que sinon,
je peux jaser n'importe quoi.
Ben, c'est ça. Je pense que tu sais vers quoi je m'enligne sur ce gros sujet de la journée, avec une confirmation que tout a bien été. Peut-être que vous comprenez aussi que je veux en venir. C'était le vol spatial de notre ami Jeff Bezos.
On le salue si t'es à l'écoute, d'ailleurs.
Ouais, si on le salue. Bravo. C'est trop. Je sais pas si. Je vais plus dire neutre. Comme tantôt, là, je suis comme, ben, c'est pas grand chose. Puis même, je voulais souligner un peu, tu sais, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Les memes, ça arrête pas depuis qu'il est parti là-dessus. Vous regarderez, je pourrais peut-être partager un meme d'Urbania tantôt qui est très, très drôle, qui m'a fait un peu sourire beaucoup. Entre autres, mais surtout, je voudrais revenir, je sais pas si tu te rappelles, on avait parlé du 60 ans de Yuri Gagarin, tu sais, cet homme qui est allé dans l'espace pour la première fois. J'avais lu ça dans la presse. Puis là, tu sais, je veux dire, puis là, quelques mois plus tard, ben, on a un nouveau, genre, un nouvel homme qui va dans l'espace, ainsi de suite, Jeff Bezos. Sauf que, il y a comme une grosse différence, puis je suis retourné voir ce que la presse en disait. Puis très bon article, d'ailleurs, ça s'appelle Un saut de puce dans l'espace, comme quoi, bon, Jeff Bezos n'est peut-être pas ce grand homme qui va explorer la galaxie comme on le connaît. Ça s'ouvre justement sur une petite phrase qui rappelle que Yuri Gagarin a fait ça. 10 fois plus longtemps déjà dans l'espace, 4 fois plus loin puis qui a fait ça là, 60 ans.
C'est notable.
Avec la technologie de l'URSS, on se rappelle, tu sais, l'URSS que tu faisais quasiment des cannes de conserve pour aller dans l'espace. Yuri Gagarin qui a fait ça tout seul. Hein, lui, je pense qu'il était tout seul dans son engin. Il est allé dans l'espace, on l'a garoché, on a fait « Bye bye, mon chum, tu reviens quand tu veux, puis si tu peux. » Puis comme de fait, il l'a fait, il est allé super loin, comparativement à Jeff Bezos. Puis ça, c'est comme...
C'est pas les mêmes genres de couilles, là. T'es là, non, c'est pas les mêmes genres.
Le gars, il a des milliards de dollars. Il fait ça avec une équipe. Il est backé. Il attend ça depuis des années. Puis lui, il fait ça un peu comme un genre de voyage balnéaire. Puis je trouvais ça bien, bien drôle de lire ça dans la presse qui, il y a quelques mois, c'est un article d'avril, si je me trompe pas, Yuri Gagarin, c'était ses 60 ans, justement. En avril, il y avait eu les genres de célébrations en Novgorod, en Russie. Puis là, on parle de genre Jeff Bezos qui s'en va faire son trip d'enfance parce qu'il a payé quelques milliards de dollars. Où est-ce qu'il aurait pu placer ces milliards de dollars-là? Est-ce que vraiment c'est impressionnant de voir ça? Après, comment il s'appelle le...
Richard Branson.
Branson qui a fait ça, tu sais, aussi avec sa compagnie Virgin.
Virgin Galactic.
Voilà. C'est comme... Il n'y a plus grand-chose d'impressionnant. Puis sachant qu'Elon Musk fait ça quasiment tout le temps, je veux dire, lui, maintenant, il fait affaire avec la NASA, là, carrément. Le gars, il envoie des marchandises à la station spatiale. Il fait des tests pour faire atterrir des fusées.
Puis il y a une grosse compétition entre Jeff Bezos puis Elon Musk par rapport à ça, par rapport aux contrats qui sont octroyés par la NASA.
Je pense que ça, sauf qu'il y a une direction... à laquelle on peut donner lever notre chapeau à Elon Musk, c'est que Elon Musk a pas l'air tant de se concentrer sur ses fameux voyages de plaisir comme a l'air de le faire Jeff Bezos. Elon Musk, avec ses idées de grandeur, autant on peut le critiquer, autant lui, le but, c'est pas de show-off qui s'en va dans l'espace. On dirait que Jeff Bezos, c'est un peu plus ça, avec le voyage. Genre, je suis allé personnellement, vous pouvez le faire aussi à coût de 26 millions si vous me payez un billet. T'sais, c'est un peu plus que genre... On dirait une campagne de marketing pas très subtile, tandis qu'Elon Musk, je veux dire, il essaie pas de te vendre ça à des milliardaires normalement. Lui, il essaie de faire affaire avec la NASA, puis de carrément partir une station sur Mars. Tu sais, le gars, il a ses idées, puis il est parti dans ses grands projets d'envergure. Fait que oui, ben juste vous rappeler que Jeff Bezos a fait ça, puis que c'est pas si impressionnant que ça. Vous lirez l'article de la presse si vous voulez, très intéressant là-dessus.
Moi, ce que j'ai envie de dire là-dessus, surtout, c'est avant d'envoyer des milliardaires dans l'espace avant de donner full d'attention médiatique à ça, est-ce qu'on pourrait pas adresser des problèmes comme, je sais pas, là, je vais aller random, le droit des femmes, l'accès à l'eau, l'accès à des latrines, tu sais.
Les toilettes, j'allais dire ça parce qu'on en est revenu 2 ans d'affilée parce que le problème est toujours présent, mais plusieurs pays où, je veux dire, les installations sanitaires, puis là, on parle pas de sanitaire COVID, là, on parle de l'installation sanitaire, de pouvoir faire ses besoins dans un endroit qui n'est pas ta cour arrière, là. Fait que oui, d'avoir ces...
C'est sûr que là, c'est facilement argumentable qu'un annule pas l'autre. C'est-à-dire que, on pourrait facilement... C'est de l'exploration, ben, etc. Mais tu sais, je veux dire...
Ben, c'est ça l'affaire, c'est que... Il y a beaucoup d'argent des articles là-dedans, comme ça, là. Tu peux même pas appeler ça exploration. Là. Ça a déjà été fait, cette affaire-là. Il n'y a rien de nouveau qui a été apporté avec cette expédition-là. Ça a duré quoi? 11 minutes? Une dizaine de minutes, à la limite. Puis le gars, il est allé genre faire des coucous, puis il est revenu, là. Tu sais, je veux dire... On peut même pas appeler ça exploration. C'est là où je veux en venir, c'est... Est-ce que vraiment ça l'a apporté de quoi? Si ça avait apporté de quoi, qu'on était carrément allé sur la Lune puis que Jeff Bezos avait inauguré, je sais pas, une station minière. Puis là, on n'était plus obligé d'exploiter des gens en République démocratique du Congo ou genre au Kyrgyzstan pour avoir des minerais rares. Je serais genre, OK, cool, on envoie des experts miniers sur la Lune. Malade. Sauf que là, le gars, il est allé faire un voyage de 10 minutes dans l'espace. Tu sais, genre, on peut-tu en revenir puis dire qu'il aurait vraiment pu avoir des endroits où on aurait pu mettre cet argent-là puis faire au moins une petite différence? Là, est-ce que la différence a été faite? J'ai le goût de dire même pas.
C'est de l'ego beaucoup. Puis là, tu sais, comme j'ai dit un peu avant qu'on ouvre l'émission, tu sais, je connais pas vraiment assez le personnage Jeff Bezos pour porter un jugement sur lui. Tout ce que je sais, évidemment, c'est de le narratif collectif que c'est l'homme le plus riche du monde. Puis que c'est, mais tu sais, je sais pas dans quelle mesure qu'il est impliqué dans les œuvres caritatives. Je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il fait personnellement avec son argent. Je sais pas à quoi ressemble son quotidien. Mais tu sais, ça reste que moi, je me souviens. Puis même quand c'est Richard Branson qui était allé, tu sais, je me souviens, puis je l'avais, parce que j'ai un Twitter que je me sers un petit peu, d'ailleurs, vous pouvez aller me suivre, Sébastien Caillé, là. Mais tu sais, j'avais tweeté, parce que j'avais tweeté, c'était genre, tu sais, à la place d'envoyer des milliardaires dans l'espace, là, on peut-tu, genre, adresser des sujets plus pertinents, tu sais, puis c'est littéralement ça que j'avais écrit, puis je pense que la question, c'est difficile de répondre autrement que, genre, ouais, c'est vrai, tu sais. Je veux dire,
on n'est pas en pleine pandémie, tu sais, je t'en donne une autre solution qui est en plus super actuelle, l'initiative COVAX, si je ne me trompe pas. Pourquoi pas payer plus de vaccins à ces pays qui n'ont pas accès à aucun vaccin et qui doivent fermer leurs frontières, qui, à cause de ça, ben, tu sais, le Canada veut pas qu'il rouvre ses frontières aux pays vaccinés, mais les pays pauvres qui n'ont pas cet argent-là à investir dans les vaccins, qu'est-ce qu'ils en font? Tu sais, eux, à cause de ça, eux vont encore plus souffrir économiquement parce que les frontières vont rester fermées, ainsi de suite. Donc, tu sais, ça a des répercussions super pervers à long terme. Tu mets 1 milliard là-dedans, je suis sûr que tu en règles des problèmes. Tu sais, puis le gars, il en a mis plus qu'un milliard, je pense, dans son projet de Blue Origin. Fait que, tu sais, c'est là où ton tweet
Jeff Bezos,
prend tout...
Jeff Bezos vaut, là, mais genre 130 milliards. Là. C'est comme de la démesure. Là. C'est comme,
évidemment, c'est ça. Il n'y a pas 130 milliards dans ses poches. Mais non. Vous comprenez qu'il y a accès à une grande piscine d'argent quelque part.
Oui, ben, tu sais, en fait, de façon discutable, il pourrait l'avoir. Il y a assurément une grosse partie de cet actif-là qui est ses actions de la compagnie Amazon. Une action de la compagnie Amazon, ça vaut genre 3 000-ish US dollars. Là. Fait que disons qu'il y en a, tu sais, évidemment que sur sa carte débit, il n'y a pas 136 milliards, mais ça reste que le gars a une valeur nette de 136 milliards. T'sais, c'est tout aussi bon. Puis c'est comme ça qu'on représente les fortunes dans le monde. Là. C'est pareil pour Elon Musk, il y a une grosse partie de sa fortune qui est représentée par ses actions de Tesla, qui est son entreprise. T'sais. Mais tu sais, quoi? Tu as 130 quelques milliards de dollars. Là,
c'est ça qu'il décide de faire avec.
Pourquoi il
n'y
a
peu...
pas un plafond? Là, je ne parlerai pas dans cette discussion-là, mais tu sais, ça reste que c'est comme de la démesure. T'sais, le gars pourrait acheter une Versailles Laval, la détruire puis s'en aller. Puis Jésus fait que je vais en construire une nouvelle. Oups, désolé. Là, ça a comme pas rapport un petit peu. Puis j'espère juste que si tu écoutes Jeff, là, que tu donnes beaucoup d'argent à des œuvres caritatives, que tu sers un peu de cet argent-là pour de la bienveillance un petit peu. Si tu le fais déjà énormément, puis qu'il te reste tellement d'argent, puis qu'après, tu veux aller dans l'espace, mettons que toutes les coches sont cochées là, de choses que tu pourrais faire pour aider la planète Terre, OK, tu sais...
Voilà, ça serait... Moi, je regarderais ça en ce moment, puis je dirais, le gars, il est capable de régler tous les problèmes sur Terre et d'aller dans l'espace, là, je serais genre...
Ouais,
that's
c'est
it,
si gars. Mais tu sais, moi, je le suis sur Instagram, je le suis pas sur Twitter, mais tu sais... Montre-moi que tu fais des. Que tu as coché les coches, là, puis après ça, regarde, va jouer dans l'espace.
Voilà, on va voir s'il va en parler longtemps, puis il va se vanter de ça, ou il est plutôt humble. C'est là qu'on va voir le personnage, je pense, derrière l'homme milliardaire qui est Jeff Bezos. Si vous voulez lire l'article, je vous invite à aller le lire sur la presse, il est sorti aujourd'hui. Sinon, ben écoutez, nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Pour la même chose, plus d'actualités internationales, plus de flash info, plus de discussions comme ça. Puis sur ce, ben restez à l'écoute de Chiz 94.3 pour plus d'infos et plus de musique. Ciao tout le monde.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Dans la réveille à Saint-Charles, boisé sur le slalom et zigzag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.